Le journal est présenté par Claire Checaglini.
Bonjour à tous. Conseil des ministres exceptionnel ce midi pour un changement de stratégie de l'exécutif contre le Covid-19. En Iran, le bilan officiel s'établit à 43 morts qui en fait le pays où l'épidémie est la plus meurtrière après la Chine. Marine Le Pen dans le Pas-de-Calais, meeting à Lens pour la présidente du Rassemblement National alors que la capitale du bassin minier semble faire de la résistance face à l'extrême droite. Les regrets de Franck Riester après l'attribution d'un César à Roman Polanski, ce n'est pas seulement l'œuvre, mais l'homme qui a été récompensé, dit le ministre de la Culture. Conseil des ministres exceptionnel, conseil de défense, l'exécutif passe la vitesse supérieure dans la préparation de l'épidémie du coronavirus chinois. En plein week-end, tous les ministres sont priés d'être sur le pont, convoqués à l'Élysée donc, car ça radère s'il s'agit de montrer que le pays est prêt à faire face à l'épidémie et à faire taire tout début de polémique.
Et oui, nouvelle étape dans la contamination, nouvelle stratégie pour Emmanuel Macron, qui apparaît désormais en première ligne avec la convocation ce matin de deux conseils exceptionnels et un débat prévu mercredi prochain au Sénat, précédé d'une déclaration du gouvernement. Il a été vivement critiqué pour ne pas avoir pris la mesure de cette propagation. En France, 19 nouveaux cas, nouveaux malades ont été confirmés hier soir, portant à 57 le nombre de cas recensés depuis le début de l'épidémie en janvier. Face à une nouvelle étape franchie, selon les mots du ministre de la Santé, le président Emmanuel Macron affiche désormais sa détermination quasi militaire avec le conseil de défense qui a eu lieu tout à l'heure, et avec tout de même une volonté de transparence et d'information en convoquant un conseil des ministres, à l'issue duquel Olivier Véran lui-même devrait annoncer différentes mesures de précaution. Cette initiative nous permettra de prendre toutes les décisions qui s'imposent pour éviter la propagation du virus, a-t-il déclaré un peu plus tôt, alors que le niveau d'alerte sanitaire en France a été relevé.
Merci Sarah. Et ce matin, l'APHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris, a annoncé que 3 membres du personnel de l'hôpital Tenon à Paris avait été infecté. C'est dans cet établissement qu'est hospitalisé l'un des malades les plus gravement atteints par le Covid-19. Ces nouveaux cas n'inspirent pas d'inquiétude particulière. 4 autres prélèvements parmi le personnel soignant sont en attente de résultats. L'OMS a revu à la hausse son niveau de sécurité concernant le coronavirus. Parmi les pays qui inquiètent le plus les autorités de l'Organisation mondiale de la santé, l'Iran, Téhéran a annoncé que près de 400 personnes avaient été infectées et 43 en étaient mortes. Chiffre donné ce matin. Mais pour la BBC, le nombre de décès s'élève en fait à 210. Bilan démenti par les plus hautes autorités iraniennes, comme l'explique le correspondant de Radio France à Téhéran, Chiavosh Ghazi.
Dans son tweet, Kianush Jahanpour a accusé la chaîne britannique basée à Londres de participer à une course au mensonge. Il a ajouté que le gouvernement iranien était totalement transparent dans la communication des chiffres. Plusieurs députés qui ont participé à la campagne électorale des législatives du 21 février ont été testés positifs. Un nouvel élu de province, ancien blessé de guerre, est même décédé. Selon certaines sources, il est mort de la grippe, mais d'autres sources affirment qu'il a été atteint par le coronavirus. Le Parlement iranien pourrait également décider de ne plus tenir de séance jusqu'à nouvel ordre. Selon une membre du conseil municipal de Téhéran, le nombre de personnes infectées pourrait être bien supérieur aux chiffres officiels. En tout cas, les autorités ont décidé de maintenir la fermeture des universités dans les provinces touchées et des écoles dans tout le pays. Selon certaines sources, la fermeture des écoles pourrait continuer jusqu'au 1er avril, qui correspond à la fin des congés du Nouvel An iranien.
La correspondance de Chiavosh Ghazi à Téhéran. Et puis en Corée du Sud, les autorités ont comptabilisé plus de 800 cas supplémentaires ces dernières heures. Retour en France à 2 semaines du premier tour des municipales. À 15h cet après-midi, Marine Le Pen sera en meeting à Lens, dans le Pas-de-Calais, à quelques kilomètres de son fief, Hénin-Beaumont. Mais si l'ex-bassin minier est désormais une réserve de voix pour l'extrême droite, sa capitale, traditionnellement socialiste, semble faire de la résistance, Anne Fauverque.
D'après le dernier sondage paru dans La Voix du Nord, le maire sortant, le socialiste Sylvain Robert, réunit 51% des intentions de vote. Il pourrait donc passer dès le premier tour. Un maire qui fait campagne sur le changement d'image de la cité minière. Le Louvre-Lens est passé par là, mais pas seulement. L'an passé, le projet d'un vaste centre aquatique pour remplacer l'ancienne piscine municipale a été voté, tout comme le lancement d'un important programme immobilier face à la gare SNCF. Le politologue Rémi Lefebvre reste toutefois prudent. Le taux de chômage reste supérieur à la moyenne nationale et à celle du Pas-de-Calais. Et politiquement, attention à l'effet trompe-l'œil.
Il a une configuration électorale assez favorable. C'est-à-dire qu'il a réussi à faire l'alliance globalement avec le PC. Il n'a pas de candidat en marche. Et pour moi, c'est plutôt en fait une contre-performance du Rassemblement national que véritablement une prouesse en fait du maire sortant.
Bruno Clavé, 30 ans, marseillais d'origine, apparaît en effet comme un parachuté, même s'il s'en défend. Lui qui s'est installé il y a 2 ans à Lens pour travailler à la mairie RN d'Hénin-Beaumont en tant que chargé de communication. Ses adversaires ne se privent pas de lui rappeler son passé de mannequin et son passage dans l'émission de télé-réalité X-Factor. Lui rappelle que Marine Le Pen a rassemblé 41% des voix à Lens en mai dernier lors des européennes.
Anne Fauquemberg. Et puis ce midi, la préfecture a interdit toute manifestation devant le Cercle 4, là où Marine Le Pen est attendue. Les autorités craignent des affrontements entre soutien du RN et opposants qui avaient appelé à se rassembler. Jusqu'à 100 000 personnes attendues ce midi à Perpignan, non pour les municipales, mais pour le meeting de Carlos Puigdemont. Aux côtés de l'indépendantiste catalan-espagnol, notamment Quim Torra, le président destitué du Parlement de Barcelone et condamné pour désobéissance. Carlos Puigdemont reste lui recherché par la justice madrilène, mais en France, il aura été reçu avant son discours par le maire LR de Perpignan, Jean-Marc Pujol, la présidente socialiste du département, Erlim Malherbe, de quoi énerver Madrid, mais Daniel Camos, délégué de la Catalogne en France, veut croire que ce rassemblement ne sera que l'occasion de mettre en avant les revendications indépendantistes.
Je ne pense pas que ça doive être perçu comme une provocation par Madrid. Ce qui devrait nous interpeller, nous citoyens de Catalogne Nord et Français, Européens, c'est le fait que ce meeting ne puisse pas avoir lieu quelques kilomètres au sud, à Gérone par exemple. On aura des intervenants qui sont des eurodéputés, qui ont donc l'immunité dans 27 pays membres, mais l'Espagne ne joue pas le jeu de la justice européenne et a dit que ces députés, même s'ils ont une immunité, ils les arrêteraient s'ils rentrent en territoire du Royaume d'Espagne. Et l'Espagne est une exception à la règle européenne. Nous sommes des européistes convaincus et nous demandons à l'Espagne de respecter les décisions de la justice européenne. En tout cas, je n'ai aucun doute que le gouvernement de Madrid saura accepter avec tout le fair play démocratique qu'il y ait des eurodéputés qui viennent faire un meeting en territoire nord-catalan parce qu'ils ne peuvent pas le faire en territoire sud-catalan. Et je pense que ce sera un moment de fête, de célébration. Je suis assez convaincu qu'il y aura 2 messages que nous portons aussi du gouvernement catalan qui sont qu'il faut aller vers une solution démocratique en Catalogne qui tôt ou tard doit passer par les urnes. Et le 2e point qui, je pense, sera défendu, c'est l'amnistie des prisonniers politiques et l'opportunité que les exilés puissent revenir en Catalogne avec leur famille.
Daniel Camos, délégué de la Catalogne en France avec Isabelle Labéry. L'Assemblée nationale a voté l'application de la réforme des retraites aux régimes spéciaux, alors que le gouvernement a choisi de ne pas utiliser pour l'instant le 49.3. Les députés ont adopté ce matin l'une des mesures phares du texte. 4000 Syriens venant de Turquie bloqués aux frontières de l'Europe par la Grèce. L'annonce a été faite ce matin par Athènes, qui parle d'une tentative organisée de masse et illégale de violation de ses frontières. Dans la nuit de jeudi à vendredi déjà, Ankara avait mis à exécution sa menace de ne plus retenir les migrants sur son sol. Au sujet des tensions, cette annonce intervient alors que des tensions ont éclaté au nord-ouest de la Syrie depuis plusieurs jours, tensions qui ont fait 33 morts. Joe Biden pourra-t-il rattraper son retard sur Bernie Sanders en Caroline du Nord? C'est le 4e État américain qui vote pour la primaire démocrate. Ce scrutin pourrait permettre à l'ancien vice-président de Barack Obama de remonter grâce au vote des Afro-Américains. Dans un peu plus d'une heure maintenant, c'est un accord historique qui devrait être signé entre Kaboul et Washington. Le résultat de plus d'un an et demi de pourparlers, Américains et Talibans vont donc officiellement acter le retrait progressif des GIs en Afghanistan. Un 5e sacre de meilleur réalisateur qui indigne. Hier soir, Roman Polanski s'est vu attribuer l'un des plus prestigieux Césars du cinéma français, celui du meilleur réalisateur pour J'accuse. Nouran Mahmoudi, la contestation du prix s'est faite jusque dans les rangs des nommés.
Oui, ce matin, les esprits sont encore marqués par le geste fort d'Adèle Haenel, qui a quitté la salle Pleyel à l'annonce de la récompense de Roman Polanski hier soir. Elle était suivie de près par l'équipe du film Portrait d'une jeune fille en feu. À chaud, Swanarlo César, du meilleur second rôle pour le film Grâce à Dieu, a exprimé sa solidarité avec l'artiste.
C'est une question morale, c'est chacun qui trouve sa propre réponse. Mais je comprends très très bien qu'elle soit partie, c'est un peu compliqué là, c'est un peu étrange. La parole se libère, mais pour autant, les choses n'ont pas changé. Le combat est encore long Et nous, on vient défendre un film qui dénonce le pouvoir de l'institution, de l'Église, qui protège ses bourreaux. Voilà, mais comme on le sait, l'Église n'est pas la seule institution concernée.
Et le ministre de la Culture, Franck Riester, a également réagi ce matin chez nos confrères d'Europe 1. Il dit comprendre aussi le geste d'Aden Haenel.
On ne célèbre pas simplement l'œuvre, on célèbre aussi l'homme. Et dans le cadre de Roman Polanski, c'est très difficile, très compliqué, parce qu'il y a un doute. D'abord, il fuit la justice américaine. De nombreuses femmes ont dit qu'elles avaient été agressées par lui. Et donc, célébrer l'homme est un message, est un signal qui est envoyé, il me semble négativement, à un moment où la chape de plomb sur ces agressions sexuelles et sexistes est en train d'exploser dans notre pays.
Franck Riester demande une transformation de la gouvernance de l'Académie des Césars, alors que sa direction avait démissionné le 13 février dernier.
Merci Norane Mahmoudi.
La bulle économique, Marie Viennot.
Un lac d'argent au menu de la bulle économique aujourd'hui. Lac d'argent, c'est le nom du fonds que va créer la France pour contrer les attaques des fonds activistes, Marie Viennot.
La musique de Batman pour démarrer cette bulle qui nous emmène dans le monde des fonds activistes. Commençons par expliquer ce qu'est un fonds. Un fonds, ce sont des personnes, des professionnels de la finance généralement, qui vont voir des gens qui ont de l'argent à investir, des entreprises, des investisseurs professionnels, des familles, et leur disent « mettez de l'argent dans mon pot, moi je vais l'investir dans tel secteur ou tel pays ou selon tel et tel critère, et je vous promets que votre argent vous rapportera 11, 13, parfois 18% par an ». Un fonds, c'est ça. Un fonds activiste, c'est un fonds qui a une philosophie d'investissement dite active, c'est-à-dire qu'il promet en quelque sorte de secouer le cocotier en ciblant les entreprises qui sont selon lui mal gérées, surcotées ou sous-cotées, voire en infraction avec la loi, le but étant, par cet activisme, de changer la stratégie de l'entreprise, parfois aussi sa gouvernance, souvent sa cote, dans l'espoir que l'argent investi rapporte encore davantage. Ces fonds activistes sont peu nombreux. 131 ont été recensés par la Banque Lazare dans le monde, mais leurs actions sont de plus en plus fréquentes, agressives et dirigées vers l'Europe, relate un rapport parlementaire publié cet automne. En 2018, 58 campagnes, soit un quart du total des campagnes des activistes, ont touché des entreprises européennes. Or, toutes ces campagnes n'ont pas pour but d'améliorer leur sort, mais parfois de les déstabiliser pour faire du profit à court terme. Le groupe Casino en a longuement fait les frais. En 2015, un fonds américain, Muddy Waters, affirme que le distributeur français est peu transparent dans sa communication financière et surendetté. En 2 heures, l'action dévisse de plus de 20%. Auparavant, le fonds activiste a utilisé un mécanisme financier, la vente à découvert, pour parier à la baisse sur la valeur de l'action Casino. Plus la valeur de l'action descend, plus Muddy Waters y gagne. Au point que Casino portera plainte contre Muddy Waters auprès de l'autorité des marchés financiers. L'affaire sera finalement classée sans suite et Muddy Waters continuera donc de prôner la transparence alors que son nom veut dire quand même « au trouble ». Les gérants de ces fonds ne manquent pas de second degré. Un autre se nomme Gotham City Research, d'où la musique de Batman. Un autre Armistice Capital ou encore Dalton Investment. Casino, mais aussi Score, Pernod Ricard, Valeo, des entreprises françaises ont eu récemment affaire à ces fonds activistes et Bercy a décidé de riposter en créant un fonds qui pourra prendre des parts dans les plus grandes entreprises cotées françaises et aider à stabiliser leur actionnariat. Filant lui aussi la métaphore, ce fonds s'appelle Lac d'argent. Il sera géré par la BPI, la Banque publique d'investissement. Mais attention, Lac d'argent n'est pas un fonds public, mais privé. Sur les 10 milliards qu'il doit réunir à terme, la BPI n'en mettra que 2. Le reste viendra du privé et essentiellement de l'étranger. Premier à y entrer cette semaine, le fonds souverain d'Abu Dhabi qui a accepté d'y laisser 1 milliard d'euros. Pour réunir 10 milliards, on n'a pas le choix, explique Nicolas Dufour, le directeur de la BPI. Il faut aller chercher des fonds à l'étranger. Mais une fois qu'ils nous ont confié leur argent, rassure-t-il, nous ne leur devons que du rendement. Nous seuls décidons où investir. Qu'une structure publique gère des fonds privés étrangers dans l'intérêt de ses champions nationaux, c'est assez particulier. Mais de quels champions parle-t-on et pourquoi les soutenir? Sur son site, la BPI parle, comme les fonds activistes, de secteurs prometteurs et de rendements exceptionnels. Mais son directeur définit Lac d'argent comme un fonds activiste bienveillant qui accompagnera le rayonnement économique de la France, ce qui reste assez vague. On y verra plus clair dans ce lac d'argent étranger au service des intérêts français quand les premiers investissements seront dévoilés, vraisemblablement d'ici l'été.
Merci Marie. Alerte orange sur 23 départements du Nord-Ouest. Des vents allant jusqu'à 110 km/h sont attendus. La tempête Georges traverse actuellement le centre, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, avant le Grand Est dans les heures qui viennent. Par ailleurs, temps perturbé avec de faibles pluies. Les températures cet après-midi entre 7 et 10 et sur la moitié Nord et entre 6 et 14 degrés sur la moitié Sud.